Bonjour à tous. Je crois qu'on m'entend bien, ça va? Alors, je suis heureux d'être avec vous. J'en profite pour vous passer les salutations de l'Assemblée KF de Villefranche-sur-Saône, qui connaît certaines personnes d'entre vous et vice-versa. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Effectivement, je ne connais pas beaucoup de monde parmi vous, mais David, qui m'a accompagné pendant un an, avec Brigitte également. Et puis, je connais aussi pas mal Guy. Effectivement, on se croise à la clairière où j'interviens tous les mardis. Pour aujourd'hui, nous allons continuer votre série de prédications sur l'évangile de Marc, et l'on m'a proposé de travailler sur le chapitre 12. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Si vous en avez une, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, suivez avec votre voisin ou je peux vous en prêter une. Ne vous sentez pas gêné, je suis le plus mal à l'aise ici. Chapitre 12, c'est un long chapitre et je vais tout spécialement me concentrer sur les versets 38 à 43 qui nous relatent l'enseignement de Jésus sur l'hypocrisie religieuse. Mais auparavant, j'aimerais que l'on parcourt un petit peu cette section qui nous montre pourquoi finalement Marc nous livre ce récit, le contexte qui amène Jésus à donner cet enseignement. En fait, nous sommes dans une grande section et cette section ne commence pas au chapitre 12, elle commence au chapitre 11 et au verset 27. Je vais la faire courte, mais très rapidement, Marc utilise le contexte narratif pour délimiter ces sections. Et si vous lisez l'évangile de Marc, regardez ce que fait Jésus. Il va à Jérusalem, il part, etc. Et à chaque changement, Marc délimite une section dans laquelle il amène un enseignement. Au chapitre 11, verset 27, Jésus enseigne dans la cour du temple et toute cette section, c'est un peu comme un ballet. Un ballet des hypocrites. Un ballet des hypocrites qui sont autour de Jésus et qui viennent les uns les autres pour essayer de paraître juste au détriment de Jésus. Dans ce ballet, tous les sujets, toutes les alliances seront bonnes pour essayer de contrer Jésus. En fait, chaque intervention pourrait être une prédication complète. Alors je vais être très injuste avec le texte et je vais survoler très 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 rapidement les premières interventions. Premier acte. Versets 27-28, nous trouvons des prêtres, des spécialistes de la loi, ou autrement dit peut-être des scribes dans vos Bibles, des anciens. Enfin, on a le gratin religieux de l'époque, et ils sont tous là pour questionner Jésus. En fait, ils sont surtout là pour remettre en question son autorité. Ils lui posent cette question un petit peu vague. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorisé de les faire? Difficile d'être plus imprécis. Jésus ne va pas leur répondre, mais il va leur dire qu'il ne leur répondra que si eux répondent à une question. Quelle autorité a Jean-Baptiste? Ils sont coincés, furieux, mais Jésus ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou en leur montrant les conséquences du rejet du Messie au travers de cette parabole que l'on connaît bien des vignerons. Finalement, il leur dit assez longuement, vous avez tué Jean-Baptiste et bientôt vous tuerez le Fils de Dieu. Dans ce premier acte, il conteste l'autorité de Jésus en tant que Messie, mais lui les met face à leurs responsabilités et il se révèle comme le Messie, la pierre angulaire qui était une image bien connue du Messie. Deuxième acte, chapitre 12, verset 13. Les pharisiens font alliance avec les Hérodiens. Waouh ! Ils se détestaient. Les Hérodiens soutenaient Hérode, et donc Rome, qui le maintenait en place, alors que les pharisiens considéraient Hérode comme un imposteur. Il n'était même pas juif, c'était un Édomite, il n'avait aucune part au trône de David, mais ces deux-là ont un ennemi commun. Et c'est bien connu, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Ils vont donc ensemble, encore une fois, essayer de déstabiliser Jésus avec cette question au verset 14. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Et vous connaissez la réponse de Jésus. Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Deuxième acte. Les religieux montrent leur incompréhension de ce qu'est réellement le Messie. Ils sont toujours dans l'attente d'un roi puissant qui apportera une libération politique. Mais ils n'ont pas compris les écrits qui parlent du Messie souffrant. Mais ils ne renoncent pas. Troisième acte. Et cette fois, c'est les Sadducéens qui apparaissent. C'est un groupe généralement de prêtres qui se considéraient comme les aristocrates religieux de l'époque. Ils méprisaient tout le monde, y compris les pharisiens, mais encore plus Jésus. Ils avaient une particularité. Ils ne reconnaissaient comme véritable que les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Et donc, si une doctrine est enseignée dans les cinq premiers livres, c'est ok, mais si on ne peut pas la retrouver, ils la rejettent. Alors la résurrection, elle n'est pas enseignée en tant que telle dans les cinq premiers livres de la Bible. Alors il pose une question un petit peu alambiquée à Jésus. Il lui cite d'abord ce commandement de Moïse qui dit que si une femme est veuve, elle peut épouser son beau-frère pour pouvoir avoir une descendance. Ça, c'est pas la question. La question, c'est le mari de cette femme meurt, elle épouse son beau-frère qui meurt, elle épouse son autre 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 beau-frère qui meurt. Autant vous dire que les suivants devaient commencer à se poser si c'était un bon plan de se marier avec elle. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Non, non, tous, les uns après les autres, ils y vont. C'est comme aller à l'abattoir. Mais personne ne dit rien. Elle finit par épouser les uns à la suite des autres, les sept frères, et ce, sans avoir aucun enfant. Waouh. Maintenant la question. Dis-nous, Jésus, au ciel, c'est qui son mari? Ah oui. La réponse de Jésus est presque aussi étonnante que la question. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dit un peu plus caricaturalement, vous n'avez que cinq livres et vous n'arrivez pas à les comprendre parce que votre lecture n'est pas éclairée par Dieu. Même dans le Pentateuque, la mort est évoquée, leur dit-il. La vie après la mort est évoquée, leur dit-il. Dieu se présente à Moïse et il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et il ajoute « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Dans ce troisième acte, Jésus remet en cause l'autorité qu'ils se sont accordée sur les Écritures. « Vous êtes complètement dans l'erreur, leur dit-il. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. » Quatrième acte. Un spécialiste de la loi qui a entendu tout cela vient se mêler à la conversation. Et au verset 28, lui aussi, il a une question. Il la pose à Jésus. « Dis donc, toi qui as l'air de tout savoir, quel commandement est le plus grand ?» Et Jésus répond cette fois à sa question d'une manière très franche et directe. Tellement franche qu'il lui dit « Je ne peux pas te répondre par un, parce qu'il y en a deux. » Il lui cite d'abord le Shema, la grande confession de foi des Juifs qu'il récitait chaque matin, chaque soir. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Mais il ajoute au verset 31, voici le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » En faisant cela, il fait un lien entre un attachement sincère à Dieu et une vie transformée par la puissance de Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux pieds d'une juste et véritable compréhension de la parole de Dieu. Et alors que l'on s'attendrait dans la continuité de ce qu'il vient d'avoir à un piège, il n'y en a pas. Regardez verset 32, le spécialiste de la loi lui dit « Bien maître, tu as dit la vérité que Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Regardez maintenant le verset 34.
Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Dans ce dernier acte, nous avons un spécialiste de la loi. Il est proche du royaume de Dieu, mais il n'y est pas. Il a bien compris qu'il n'est qu'un seul Dieu, mais il n'a pas reconnu en Jésus le Messie. Il n'a pas reconnu que Jésus est Dieu. Personne n'ose plus lui poser de questions, mais le texte ne s'arrête pas là. Et maintenant que nous avons toutes ces histoires en tête, je vous propose qu'on lise le texte du jour. À partir du verset 35. Jésus continuait à enseigner dans le temple et il dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en de longues robes et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus était assis vis-à-vis du trône et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches y mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car ils ont tous pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc marque à nouveau le récit par une introduction narrative. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Malgré tout ce qui vient de se passer, Jésus est là, dans le temple, il enseigne, et son enseignement est une réponse directe aux scènes qui viennent de se dérouler. Et je vous propose que nous abordions le texte de ce jour au travers de 3 points. Premier point, dans les versets 35 à 37, une lecture hypocrite de la parole de Dieu. Deuxième point, dans les versets 38 à 40, une vie hypocrite. Troisième point, dans les versets 41 à 44, une vie transformée. Premier point, une lecture hypocrite de la parole de Dieu. Voici ce que Jésus dit. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Vous respectez David. Vous dites que dans sa descendance, il y aura le Messie. Mais oh, pourquoi est-ce que David l'appelle Seigneur ? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Vous savez, c'est ce que vient de dire le spécialiste de la loi 30 secondes auparavant. Dieu lui-même. Pour que le fils de David soit son Seigneur, il faut qu'il soit Dieu. Aujourd'hui, nous le comprenons facilement. La mère de Jésus, c'est Marie, une descendante de David. Le père légal, adoptif de Jésus, c'est Joseph, un descendant de David. Mais le Père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Jésus est pleinement Dieu. Nous le savons, mais ils auraient dû le savoir. En fait, ils le savaient, mais ils ne voulaient pas le savoir. Ésaïe 7, voici pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra un fils au monde et l'appellera Emmanuel. Il y a tellement de textes qui annonçaient cette naissance. Jésus accuse les religieux de ne pas lire les Écritures pour y trouver la vérité, mais pour y trouver seulement ce qui leur plaît, seulement ce qui conforte leur pouvoir sur le peuple, seulement ce qui leur permet de dominer le peuple. Ils lisent l'Écriture sans jamais être touchés, repris, transformés par l'Écriture. Ils lisent l'Écriture et passent à côté du Messie. Ils lisent l'Écriture, ils passent à côté du salut. Deuxième point, et je serai un petit peu plus long. Une vie hypocrite dans les versets 38 à 40. La foule écoute Jésus. Maintenant, il a toute son attention. Il cible deux groupes. D'un côté, les religieux, au travers des spécialistes de la loi, et de l'autre, les veuves. Il y a donc à main droite le premier groupe, les spécialistes de la loi ou les scribes. C'était des personnes instruites dans la loi de Moïse et dans tout l'Ancien Testament. Ils examinaient les questions les plus difficiles. Ils cherchaient à comprendre la loi. Ils avaient classifié la loi en 613 préceptes, 365 négatifs, 248 positifs. Un de leurs sujets favoris de discussion qui pouvait l'occuper de toutes les soirées, c'était de savoir quel était le commandement le plus grand, le plus important. Ils avaient donné à la loi toute la place dans leur vie. Ils avaient même ajouté des commandements aux commandements pour être sûr de ne pas enfreindre les commandements. Oui, c'est un peu compliqué comme phrase. Vous savez, par exemple, pour respecter le sabbat, ne faites pas plus de 2 km par jour. Il n'est jamais question dans la Bible de ne pas faire plus de 10 km le jour du sabbat. Mais ils considéraient que si on ne faisait pas plus de 2 km, c'est qu'on n'avait pas travaillé et qu'on n'avait donc pas enfreint le sabbat. La loi était leur mode de vie. La loi était leur instrument de domination sur les peuples. À ma gauche, vous avez les veuves. Les veuves étaient les personnes les plus fragiles de la société. À l'époque de Jésus, notamment, une femme dépendait entièrement de son mari. Si celui-ci mourait, souvenez-vous par exemple de Ruth, sa veuve ne jouissait d'aucune protection sociale ni d'aucune ressource. Les veuves qui n'étaient pas prises en charge par un second mari, souvenez-vous de la discussion que l'on a eue sur la veuve qui épouse, ou pas prises en charge par leurs enfants ou plus largement par leur famille, étaient les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres de la société. Et Dieu leur accordait une attention particulière. Il y a un nombre incroyable de textes qui nous montrent l'attention que Dieu avait pour ces personnes. Deutéronome 14, 28-29. Tous les 3 ans, vous mettrez un dixième de votre récolte de l'année en cours. Vous le mettrez en réserve dans vos villes. Ainsi, les Lévites qui ne possèdent pas de territoire comme vous pourront se servir là. Les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous pourront venir le faire. De cette façon, ils mangeront à leur faim. Alors, le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous ferez. Deutéronome 24, 17. Ne prenez pas en gage les vêtements d'une veuve. Ésaïe 1, 17. Apprenez à bien faire. Préoccupez-vous des droits des gens. Tirez d'affaire l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause des veuves. Deutéronome 24, 19. Autorisez les veuves à glaner dans les champs après les récoltes. Exode 22, ne profitez pas des veuves, des orphelins. Si vous profitez d'eux, s'ils crient au secours, j'entendrai leur cri. Je me mettrai en colère, je vous ferai mourir à la terre. Alors vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront orphelins. Dieu a une attention toute particulière pour les veuves, pour les gens qui sont fragiles dans la société. Mais revenons à notre premier groupe. À quoi reconnaît-on un scribe ? Dans ce texte, Jésus ne parle pas de leur fonction, il ne parle pas de leur irréprochabilité devant la loi, de leur zèle à l'observer, mais regardez à partir du verset 38. On les reconnaît à leur beau costume. Ils ont de beaux habits pour qu'on puisse les reconnaître du reste du peuple. Les rabbis, les scribes, les docteurs de la loi, ils portaient des grandes robes qui devaient totalement couvrir leur tunique, et lorsqu'ils étaient suffisamment fortunés, ils les faisaient teindre en pourpre, en violet ou en cramoisi. C'était des couleurs qui étaient extrêmement chères mais qui permettait de ne pas passer inaperçu. Imaginez quelqu'un en violet parmi tout un peuple qui se trimballait en blanc ou en couleur, je ne sais pas comment, beige. Voilà. Vous avez quelqu'un en cramoisi au milieu, c'est éclatant. Et Jésus nous dit combien ils appréciaient tout particulièrement d'être reconnus, respectés, salués lors de leur promenade en ville. Ça leur rappelait toute l'importance qu'ils peuvent avoir ou voudraient avoir. On les reconnaît encore au verset 39 à leur attitude publique. Lors des événements, ils ne se mélangent pas avec les autres, mais ils cherchent des places visibles qui peuvent les distinguer, qui peuvent les valoriser. Je suis assez frappé par combien nous pouvons être à la recherche des mêmes honneurs. Nous aimons facilement être reconnus, être salués par des personnes que nous jugeons importantes, avoir une place particulière. Bien sûr, nous servons Christ, mais c'est tout de même plus sympa si les gens le savent. S'ils savent que nous sommes pasteurs, anciens, responsables de telle activité, nous aimons être remerciés, reconnus pour ce que nous faisons. J'étais il y a quelque temps invité à une fête et je me suis aperçu que ma place n'était pas avec ceux pour qui la fête était organisée. Oui, il y avait une fête qui était organisée pour des gens, j'étais invité à cette fête et ma place n'était pas avec eux. Non, moi j'avais une place spéciale, au milieu, à une table, avec des hommes politiques, avec... Mais qu'est-ce que je fais là? Je me rends compte, en tant que pasteur, que quelquefois on me donne une place spéciale pour m'asseoir lors des festins. Et ça pourrait être vraiment très agréable. Si Jésus ne continuait pas sa phrase. Parce que voici comment elle se termine. Il dépouille les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et voici ce que fait notre premier groupe. Il dépouille les veuves. Le terme utilisé pour dépouiller est katseio, je suis désolé pour ma prononciation, un terme que Marc a déjà utilisé une fois dans son évangile au chapitre 4, dans la parabole du semeur. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long des chemins. Les oiseaux vinrent et la dévorèrent. Katseio, cette semence qui devait donner la vie est dévoré par les oiseaux. De la même manière, les scribes dévorent la vie des veuves. Comment le faisait-il? On ne sait pas exactement, mais le constat que Jésus fait est très clair. Ces personnes qui se donnent une si belle apparence s'en prennent aux personnes les plus faibles de la société, tout en faisant de belles, de longues prières. Ce que Jésus met en valeur chez les spécialistes de la loi nous concerne tous. C'est le fait de ciseler, de façonner la belle partie de l'iceberg, celle qui est visible, de se donner une belle image de pureté tout en délaissant les profondeurs. Ce que Jésus dénonce ici est très clair dans cette dernière phrase. Ils font semblant de faire de belles prières, mais ces prières ne sont pas destinées à Dieu, elles sont destinées à ceux qui les entourent, pour affermir leur position. Les spécialistes de la loi, les pharisiens, avaient l'habitude de se tenir debout dans le parvis du temple pour y prier à haute voix pour que tout le monde les entende. Ce que Jésus dénonce, c'est leur hypocrisie. Ce qui est étonnant, c'est le ton sur lequel Jésus parle. On y sent toute sa colère, toute sa fureur. Son acte d'accusation est catégorique. Pourtant, Jésus est d'une patience incroyable avec les pécheurs. Souvenez-vous de ce père qui attend encore son fils, qui est parti après lui avoir extorqué tous ses biens. Ou regardez l'attitude de Jésus face aux prostituées, face aux collecteurs d'impôts, le regard bienveillant qu'il porte sur Zachée le voleur. Il converse avec douceur avec un brigand sur la croix. Il va au devant de Paul qui persécute avec zèle son église. Mais en présence des hypocrites, c'est sa fureur et un jugement cinglant qui est là. Vous aimez marcher avec des beaux costumes? Vous aimez vous parrainer parmi les foules? Vous aimez être salué parmi les foules? Vous aimez les places d'honneur dans les festins? Alors que dans ce même temps, vous faites de belles prières et dévorez les biens des veuves, alors vous recevrez une grande condamnation. Il y a une place spéciale en enfer pour les hypocrites, semble dire Jésus. Waouh ! Pourquoi est-il si virulent ? Pourquoi est-il si virulent ? Parce que l'hypocrisie est un péché qui nous empêche d'admettre qui nous sommes réellement et notre besoin d'être guéris. L'hypocrisie nous amène à penser que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes, et cela nous coupe totalement de la grâce de Dieu. Car à chaque fois que nous surestimons notre propre personne, nous refusons de faire appel à la grâce de Dieu. Jésus traite avec douceur les pécheurs qui se rendent compte combien ils sont pécheurs, qui se rendent compte combien ils sont horrifiés par leurs péchés. Et si vous êtes dans ce cas-là, soyez rassurés, Jésus vous regarde avec douceur et vous offre sa grâce. Mais quand les pécheurs prétendent ne pas l'être, cachent aux yeux des autres et à eux-mêmes leurs fautes, la condamnation est cinglante. Ils seront jugés plus sévèrement. Je voudrais qu'on se pose la question de quelle est la nature du péché de l'hypocrisie. Quand nous sommes hypocrites, nous essayons de nous justifier. Nous essayons de paraître justes au regard des autres en gardant cachés nos péchés au fond de nous-mêmes. Nous avons peur d'être rejetés pour ce que nous sommes. Nous aimerions être valorisés, cajolés, appréciés. Alors nous fabriquons une personne extérieure qui n'a plus aucun lien avec la personne que nous sommes réellement. Nous pouvons prier juste pour que les gens soient admiratifs de ce que nous racontons, sans croire une seule des paroles qui sort de notre bouche. Nous pouvons faire beaucoup de bruit avec le panier à offrande sans qu'aucune pièce ne tombe de notre main. Nous pouvons chanter à pleine voix sans être touchés par aucune des paroles. Nous semblons vivre pour Dieu, mais nous vivons pour nous. Il y a au moins trois raisons pour lesquelles Jésus se met en colère. La première raison, c'est que l'hypocrisie est un péché acceptable. Oui, c'est vrai, ça arrange tout le monde. Il y a des péchés qui nous dérangent. Accepterions-nous d'avoir une ancienne prostituée, un meurtrier, un voleur repenti dans nos rangs? Oui, bien sûr, parce que nous savons au moins intellectuellement que la grâce de Dieu s'adresse à tous. Mais au fond, comment vont réagir les parents avec leurs enfants? Ah, pire, comment vont réagir les épouses vis-à-vis de leur mari? Comment va-t-on réagir le jour où il y aura un vol dans l'église? Même si nous savons intellectuellement que la repentance s'adresse à tous, en même temps, nous mesurons la difficulté. Mais un hypocrite, ça nous va bien. Il est toujours très gentil, il semble avoir une des vies les plus rangées, il donne des conseils à ceux qui semblent être en difficulté, mais en fait, il se nourrit de la reconnaissance que peuvent lui apporter les plus faibles et se conforte dans une pseudo sainteté. Deuxième raison. Par leur attitude, ils ferment les portes du royaume de Dieu à ceux qui les entourent. Par leur attitude, ils ferment les portes du royaume de Dieu à ceux qui les entourent. Lorsque nous jouons un jeu, lorsque nous faisons semblant que tout va bien dans notre vie, que nous sommes au-dessus de ces misérables pécheurs que vous êtes, nous laissons penser que certains ont plus besoin de la grâce de Dieu que nous. Nous renions une des vérités fondamentales de l'Évangile, que tous ont péché et ont besoin de la seule grâce de Dieu pour être transformés. En faisant cela, nous dressons un mur entre Dieu, qui affirme que seule sa grâce peut nous transformer, et ceux qui auraient besoin de cette grâce. Je voudrais que vous remarquiez la virulence de Paul vis-à-vis des Galates parce qu'ils mettaient l'Église sous le joug de la loi. C'est peut-être les versets les plus violents de la parole de Dieu. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir maintenant par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous l'écoutez avec foi? Et voici ce qu'il dit quelques versets plus loin à propos de ceux qui les ont fascinés. Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Les hypocrites ne travaillent pas pour Christ, ils travaillent pour eux. On y retrouve le caractère que dénonce Jésus à propos des spécialistes de la loi. Leur discours ne pointe pas vers la grâce de Dieu, mais vers leur propre situation. Ils confortent leur situation en tenant les foules sous un joug moral. Troisième raison. La troisième raison, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche déjà pas très bien entre nous. Vous savez, c'est un petit peu comme la première fois que vous allez chez quelqu'un. Vous rentrez chez lui, vous rentrez chez lui et waouh, c'est rutile. Tout brille, du sol au plafond. On dirait la maison de Monsieur Propre. Et puis après quelques instants passés, vous ouvrez un tiroir pour prendre un couteau et vous rendez compte qu'il y a de la poussière au fond des tiroirs. Vous ouvrez le frigo et c'est pas très net non plus. Commencez à vous demander si vous allez manger là. Mais bon, c'est parfait chez personne, vous direz-vous. Et puis vous passez un jour à l'improviste et là vous ne reconnaissez pas du tout la maison. C'est sale. Il traîne des choses de partout. Et vous vous demandez comment est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse habiter là-dedans. Mais ça, c'est sa vraie vie. Il est si facile de faire le ménage juste là où ça se voit quand quelqu'un va passer. Je ne suis pas du tout en train de critiquer le fait que l'on aime avoir sa maison propre quand quelqu'un vient à la maison. Mais l'hypocrisie consiste à faire croire qu'une maison hyper clean, c'est normal, alors que l'on vit dans un taudis. Quelquefois, c'est un peu pareil pour nous. Nous avons au contact des gens une belle façade. Mais à l'intérieur, l'état n'a rien à voir. C'est un vrai taudis. Et je voudrais passer au troisième point, une vie transformée. Parce que le problème, c'est que si nous, nous pouvons être dupés, Dieu, lui, voit tout. Rien ne lui échappe, pas même les plus grandes profondeurs de notre cœur. Dieu voit à la fois nos actes, mais aussi les motivations qui nous poussent à agir. Regardez la suite. Imaginez cette situation. Jésus est dans le temple, il est entouré par une grande foule. Il est avec ses disciples auprès de lui et que voit-il? Il voit des gens qui mettent de l'argent dans le tronc à offrande. Il voit de nombreux riches qui mettent beaucoup. Alors chez nous, nous avons des aumônières en tissu pour l'offrande, ce qui fait que vous pouvez mettre votre main au fond, puis que vous mettiez peu ou rien, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez mettre beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Mais à l'époque, au bord du temple, il y avait 13 grandes trompettes en cuivre dans lesquelles on mettait l'argent. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de billets de banque. Alors quand on mettait beaucoup de pièces, ça faisait beaucoup de bruit. Surtout si on avait l'intention que ça fasse beaucoup de bruit et qu'on les jetait de bien haut. Et Jésus est attentif à ce qu'il voit. Il voit ces gens qui passent et qui mettent beaucoup, comme tout le monde. Mais alors que lui, comme tout le monde, voit que certains mettent beaucoup, il voit aussi ce que met cette pauvre femme. Et il voit exactement ce que met cette pauvre femme. Elle met deux pièces. On estime la valeur à 57 centimes chacune. C'est quand même pas grand-chose. Qu'est-ce que ces deux pièces vont bien pouvoir ajouter à la vie du temple? On va repeindre le mur avec? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces deux pièces? Imaginez-vous quelqu'un à la fin de la collecte, je ne sais pas, vous faites la collecte ou c'est juste un tronc à la sortie? Imaginez quelqu'un mettre 50 centimes à la sortie. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir changer à la vie de l'Église? Votre pasteur sera payé. Non, vous n'êtes pas de pasteur. Wow. C'est bien. Une grosse économie. Nous, c'est notre premier poste de dépense. Qu'est-ce que ça va changer? Mais Jésus ne compte pas comme ça. Il ne mesure pas le don à la valeur de ce qui est donné. Il mesure le don à la valeur de ce qui reste. Jésus dit qu'elle a mis tout son nécessaire. Il précise encore, il dit qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a vraiment tout donné. Jésus ne mesure pas la valeur à ce qui est donné, il mesure la valeur à ce qui reste. Et là, il ne reste rien. La parole de Dieu nous montre que nous sommes animés d'un mouvement et que ce mouvement part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le don de cette femme est le reflet d'une transformation intérieure. Les spécialistes de la loi dévoraient la vie de ces pauvres veuves. N'aurait-elle pas pu s'indigner? N'aurait-elle pas pu vouloir garder pour elle le peu que ces pauvres, que ces spécialistes ne lui avaient pas encore volé? Ce qu'elle donne est à l'image de son cœur. Jésus en fait ici l'exemple d'une piété réelle qui contraste avec l'hypocrisie des scribes. Ce don est une image de ce que Christ va faire quelques versets plus loin. Paul nous dit « Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin, mais s'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un saint homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la croix, où il ne restera rien. » Regardez maintenant au verset 43. À qui parle Jésus? Le peuple l'écoute, mais c'est à ses disciples qu'il s'adresse. C'est à nous que Jésus parle aujourd'hui, à nous qui nous soucions de notre réputation, à nous qui nous soucions du regard de ceux qui nous entourent, et même parfois en nous donnant de bonnes raisons, comme le témoignage. Mais regardons une fois de plus à Jésus et à ce qu'il s'apprête à faire. Il se dirige vers la croix. Sur cette croix, il est fait péché. Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Cette expression devrait profondément nous heurter, nous choquer. Jésus est devenu péché. Il est devenu totalement péché. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Il est devenu totalement péché. Toute l'horreur du monde, il l'a prise totalement, pleinement sur la croix. Il prend sur lui toutes nos fautes, celles des prostituées, des meurtriers, des voleurs, mais aussi toutes nos mauvaises motivations, toutes ces fois où nous essayons de nous mentir à nous-mêmes, toutes ces fois où nous nous faisons plus justes que nous ne le sommes. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tout notre être est contaminé par le péché. Calvin parle de la corruption totale du pécheur. Cela veut dire que le péché a affecté toutes les parties de notre être, le cœur, les émotions, la volonté, l'esprit, le corps. Tout est affecté par le péché. Calvin a voulu souligner que les hommes sont entièrement inclinés vers le péché. Ils ne peuvent pas s'en soustraire par leur propre volonté. Ils ont besoin d'un rédempteur qui s'abaisse, d'un rédempteur qui vient jusqu'à nous, d'un rédempteur qui prend toutes nos fautes, d'un rédempteur qui, pour nous délivrer de ce péché, meurt sur la croix pour que la justice de Dieu soit pleinement satisfaite. Si nous avons la foi, que ce Rédempteur est descendu au plus profond de nos cœurs, qu'il a contemplé l'étendue de notre misère, qu'il a vu la totalité de notre hypocrisie. Je ne demande pas qui est hypocrite, je dis nous sommes tous des hypocrites. Jésus a vu cela dans chacun de nos cœurs. Dans chacun de nos cœurs, Jésus est allé contempler la noirceur. Mais il n'a pas renoncé. Ça ne l'a pas arrêté. Il nous a aimés et s'est tout de même livré totalement pour nous. Il n'a rien gardé pour lui. Il s'est offert entièrement pour que nous soyons couverts par sa grâce et qu'alors nous n'ayons plus rien à cacher. Plus rien que nous ne puissions sauver par nous-mêmes. Seul son sacrifice parfait nous rachète et nous libère de nos péchés. Nous sommes bien souvent fans des super-héros, vous savez, ceux qui soulèvent des voitures, qui renversent des murs. Mais notre véritable héros est venu dans l'humilité la plus profonde. Il n'a pas joué les coudes, il ne s'est pas vanté de toutes les guérisons, de tous les miracles qu'il a pu réaliser. Il ne s'est pas vanté de sa bonne conduite devant Dieu. Il a marché humblement, sous le regard bienveillant, aimant de Dieu, qui a approuvé sa vie. Il nous donne la possibilité, par son esprit, de marcher à sa suite, d'être ouvert sur ce que nous sommes réellement pour devenir comme lui. C'est le moment d'ouvrir vos agendas, vos smartphones. Non, je ne plaisante pas. Faites comment pour vous rappeler des choses que vous avez à faire dans la semaine? Moi, je ne suis pas capable si je ne l'écris pas. Je voudrais vraiment que vous notiez quelque chose à faire cette semaine. Non, mais sincèrement. Vous savez, Jésus dit que celui qui lit la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il peut toujours continuer à lire, ça ne sert à rien. Je vous propose de chercher un moment calme. Aujourd'hui ou dans la semaine, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Dans ce moment calme, vous prenez le psaume 139. Vous regardez le psaume 139. Vous le lisez calmement et vous examinez devant Dieu ce que vous êtes. Partons à la recherche de nos motivations. Nous aurons peut-être besoin de l'aide de Dieu pour sonder notre cœur. Il y a tellement de choses que nous avons refusé de voir peut-être pendant des années et que nous n'arriverons pas à voir tout seul. Avec ce psaume, Dieu peut nous aider à rentrer au plus profond de nous-mêmes, là où lui-même est allé pour nous délivrer et nous montrer l'hypocrisie qui pourrait encore être là. Nous pourrons nous en repentir en étant pleinement conscient de la grâce de Dieu, en étant pleinement conscient que même pour cela, Christ est mort sur la croix. Christ a vaincu cela sur la croix. Et je voudrais vous laisser deux encouragements pour finir. Un négatif et un positif. Mais j'hésite un peu par lequel je commence. Allez, je commence par le négatif. Rappelez-vous de la fureur de Jésus face aux scribes. Nous serons jugés plus sévèrement. Un encouragement. Pardon, j'avais oublié le deuxième. Vous ne me le rappelez pas. Hein. Jésus l'a souvent rappelé. Ceux qu'il aime sont ceux à qui il a beaucoup pardonné. Nous ne devrions pas avoir peur de ressortir les vieux dossiers devant lui. Ça ne devrait jamais nous inquiéter. Parce que ceux qui aiment Jésus sont ceux qui ont compris l'étendue, la profondeur de son pardon. Que Dieu, le seul qui est capable de regarder non à l'apparence, mais au cœur, puisse nous aider à détester notre péché plutôt que de le cacher. Je voudrais juste, pour conclure, qu'on puisse chanter un chant ensemble, je crois que c'était ce chant qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. »